Chers frères et sœurs, je vous propose d'ouvrir notre Bible à l'Évangile selon Marc au chapitre 11. Je vous lirai les versets 12 et suivants. Je vais même vous lire le verset 11 après tout, il ne manque pas d'intérêt. Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout regardé, vu l'heure tardive, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Mais s'en étant approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Il prit alors la parole et répondit : Plus jamais personne ne mangera de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Il les enseignait et disait : « N'est-il pas écrit ? Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes l'entendirent et cherchèrent les moyens de le faire périr. Ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée par sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus : « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est séché. » Jésus prit la parole et leur dit : « Ayez une foi de Dieu. » Frères et sœurs, prenons notre recueil de chants, louanges et prières au cantique 251. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 4 pour nous préparer à la méditation de ce texte. Dieu notre Père, donne-nous d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous avons écouté devienne bonne nouvelle pour nos vies. Chers frères et sœurs, chers amis de l'entraide, rassurez-vous, je n'ai nullement choisi ce texte dans la perspective de notre vente qui aura lieu début décembre, ici même, dans ce temple. Car ce que nous faisons à travers cette vente ne tombe pas sous le coup de ce texte biblique, c'est mon point de vue. En revanche, si j'ai retenu ce passage biblique, c'est parce qu'il me semble que l'idée selon laquelle Dieu récompenserait ceux qui agissent bien et qu'il punirait ceux qui agissent mal, est encore assez répandu contre ce que proposent les textes bibliques, me semble-t-il. Et évidemment, cet épisode biblique, lu rapidement, je dirais en première lecture, pourrait sembler soutenir la conviction que Dieu rétribuerait en fonction de nos actions. Ici, c'est évidemment le figuier qui serait puni. Mais peut-on vraiment en vouloir à un figuier de ne pas donner de figues au printemps ? Comme le dit le narrateur, ce n'était pas la saison des figues. Alors, qu'a-t-il fait de mal, ce figuier ? Quelle faute ce figuier a-t-il commise qui mérite une malédiction de la part de Jésus ? D'abord, il aurait fallu que Jésus maudisse effectivement le figuier. Cela ne me semble pas aussi évident. Quand Jésus s'adresse au figuier, après qu'il a cherché des figues, le texte grec dit « Plus jamais personne ne mangera du fruit de toi ». Alors bien sûr, on peut considérer que cela constitue une sorte de malédiction. Mais à vrai dire, ce n'est que Pierre qui a cet avis. Quand vous dites « Oh, il ne va pas faire beau aujourd'hui », est-ce vraiment une malédiction que vous lancez contre le ciel ? Pas exactement. Il s'agit plutôt d'observation, de constat, de déduction, d'analyse en quelque sorte. Et il en va de même dans notre texte biblique. Il me semble que Jésus manifeste une sensibilité au réel bien plus exacerbée que celle de ses disciples. Une capacité d'analyse qui les dépasse, puisque c'est seulement le lendemain que Pierre fera un constat analogue en disant « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Autrement dit, plus personne ne pourra manger de son fruit. Et c'est Pierre qui parle de malédiction dans ce passage biblique et qui nous met sur la piste d'une malédiction. Alors, je ne vais pas non plus dire que Jésus a béni le figuier, mais il me semble qu'il y a autre chose dans le rapport que Jésus entretient à ce figuier. Il me semble en tout cas que ce n'est pas la parole de Jésus qui change le destin du figuier. Ce n'est pas parce que Jésus a parlé sur le figuier que d'un seul coup, le figuier deviendrait stérile et sec. Si nous nous en tenons au texte, Jésus n'est pas celui qui fait mourir le figuier. Il est celui qui dit ces quatre vérités à l'arbre. vérités qui seront vérifiées dès le lendemain selon le texte. Jésus s'est approché du figuier, ayant faim. Il désirait manger de son fruit, manifestement, mais le figuier n'a rien fait du désir de Jésus. Le figuier n'a pas répondu à la sollicitation de Jésus. Et alors, comme le dit le texte grec, Jésus répond au figuier. Et plus exactement, il répond à l'absence de réponse du figuier. C'est très étonnant. Le texte grec dit que Jésus répond. Une sorte de dialogue, finalement, s'est engagé entre le figuier et Jésus. Et le résultat de ce dialogue montre clairement que le figuier n'a rien fait du désir de Jésus et que dans ces conditions, il ne donnera plus de fruits. Cela ne signifie pas que Jésus l'empêche désormais de produire du fruit. Cela signifie que le figuier, en refusant de répondre favorablement au désir de Jésus, a décidé de ne pas relever le défi qui lui était offert. Produire du fruit en dehors de la saison du fruit. Faire des figues alors que ce n'est pas encore le plus fort de l'été. Au fond, le figuier s'est laissé aller à sa propre nature, qui consiste à faire des figues en sa saison, sans plus. C'est donc le figuier qui s'inflige une existence en sous-régime par rapport à l'espérance portée par Jésus. C'est le figuier qui n'est pas à la hauteur de ce que Jésus lui propose. Alors, pour les inconditionnels de la théologie du process, l'occasion est tout indiquée pour reprendre cela avec la position du théologien John Cobb, qui dirait à ce sujet que le figuier a tout simplement refusé de faire quoi que ce soit des nouvelles possibilités d'existence que lui proposait Jésus. Ce figuier s'en est tenu à une existence sans relief, sans histoire, et donc sans avenir. Jésus n'est finalement qu'un témoin de ce que le figuier a refusé de faire. C'est une manière de dire que nous sommes responsables de la tournure que nous donnons à notre histoire. Jésus est là pour susciter du désir, pour encourager à une existence renouvelée, mais il appartient ensuite à l'interlocuteur de faire quelque chose ou non de ce que Jésus suscite. Ailleurs, dans l'évangile de Marc, il est question du péché contre l'esprit qui ne sera pas pardonné. C'est étonnant que quelque chose ne soit pas pardonné. Il me semble que cela est en corrélation avec ce texte. Si l'esprit est ce qui nous met en relation avec autrui, si l'esprit c'est ce qui nous permet de nous ouvrir à autre chose que nous-mêmes, alors pécher contre l'esprit, autrement dit être fermé à l'esprit, c'est refuser que notre vie soit renouvelée de ce que l'autre nous apporte, et donc c'est nous condamner nous-mêmes. C'est ainsi que la théologie du process envisage la justice de Dieu. Alors évidemment, cette histoire n'est pas seulement une petite leçon de botanique que Jésus donnerait à ses disciples. Dans la Bible, le figuier est bien plus qu'un figuier. Et un figuier qui s'assèche est bien plus qu'un arbre de moins dans le jardin de la création. Dans la Bible, le figuier représente le lieu de la méditation de la parole de Dieu. C'est le lieu de l'instruction divine. C'est sous le figuier que l'homme médite la parole divine. Le pasteur Martin Luther King, d'ailleurs, le reprendra dans un de ses textes fameux où il dira que son espérance est que chacun puisse méditer sous son figuier. Dans l'Évangile, selon Jean, nous voyons cela à l'œuvre parce que Jésus reconnaît en Nathanaël un véritable Israélite parce qu'un peu plus tôt, il l'a vu sous le figuier, méditant la loi et les prophètes, autrement dit, ce qui allait devenir la Bible hébraïque. À l'époque de Jésus, quel est le lieu idéal pour méditer la parole de Dieu ? Le temple de Jérusalem. C'est d'ailleurs là où il se rend régulièrement, et c'est là où il s'est rendu encore dans cet épisode. C'est là où il prêche, c'est là où il y a de la polémique, c'est là où il y a du débat théologique. C'est là où la présence de Dieu est manifestée de la façon la plus intense qui soit. Et comme par hasard, vous l'aurez peut-être noté, entre le moment où Jésus cherche des figues sur le figuier qui représente le lieu où l'on médite la parole divine, et le moment où le figuier sera reconnu comme sec, radicalement sec, que se passe-t-il ? Jésus s'invite au temple pour y faire le ménage. Heureusement que notre sacristain n'est pas du genre Jésus pour faire le ménage. Pour ceux qui auraient perdu de vue que le figuier est l'image du lieu où l'on se met à l'écoute de la parole de Dieu, le rédacteur de cet évangile se charge de mettre les points sur les i en insérant ce passage où Jésus fait le constat que la maison du Père n'est plus la maison de prière qu'elle devrait être. Ce texte est donc, du début jusqu'à la fin, une véritable polémique contre le temple de Jérusalem, tel qu'il fonctionnait à l'époque. La polémique est la suivante. Le temple de Jérusalem a été perverti. Il ne s'oriente plus vers les objectifs qui lui avaient été assignés au départ. Si le temple de Jérusalem n'est plus utilisé pour sa fonction initiale, encore faut-il dire quelle est cette fonction initiale. Eh bien, le temple de Jérusalem correspond à ce qu'était autrefois le lieu de culte dans le livre de l'Exode, par exemple, un lieu où l'Éternel prononce son nom et où il est possible pour tout un chacun de se mettre face à l'Éternel. Autrement dit, permettre une relation directe entre Dieu et les hommes. Mais voilà qu'au temple de Jérusalem, on y fait du commerce. On y achète une bonne conscience en payant des animaux et des prêtres, les sacrifie, de telle sorte que nous soyons quittes de nos obligations religieuses. C'est en ce sens que cette activité commerciale est bien différente de celle que nous aurons dans quelques semaines. Ici, c'est une vie spirituelle par procuration qui est condamnée par Jésus. Plutôt que de vous tenir face à l'ultime, plutôt que d'être dans un rapport direct au divin, vous passez par l'intermédiaire des prêtres qui accompliront les rituels qui garantiront une bonne relation ou une bienveillance, plus exactement, de Dieu sur vous. Autrement dit, vous vous en lavez les mains. C'est le supermarché du religieux. On obtient les faveurs de Dieu contre quelques pièces ou quelques gros billets. Vous avez besoin de vous faire pardonner ? Regardez, j'ai ça en magasin. Vous avez besoin de guérir de quelque chose ? Eh bien, achetez ça, c'est du premier choix. Produits haut de gamme, tout ce qu'il y a de meilleur sur le marché était certainement au temple de Jérusalem. Nous pouvons lire, à travers ce texte, une critique de toute religion qui oublie ce qu'elle est, en principe, supposée accomplir. Mettre l'homme directement en relation avec l'ultime. Supprimer tous les intermédiaires. Permettre à chacun d'être véritablement un croyant. En deux mots. Jésus, lorsqu'il observe le fonctionnement du temple de Jérusalem, constate la distance qui s'est manifestement installée entre ce qu'un temple devrait être et ce qu'il est devenu. Et la seule chose qu'il puisse dire, c'est que ce n'est pas ici que les hommes trouveront leur nourriture spirituelle. Autrement dit, il y a un parallèle évident entre l'histoire du figuier et l'histoire du temple. En parlant du figuier, Jésus parle du temple. En parlant de l'avenir du figuier, Jésus parle de l'avenir de ce temple-là, avec ce fonctionnement précis. Oui, en voyant le temple, il voit que cela a l'allure d'un lieu de culte. Les feuilles sont tout ce qu'il y a de plus joli, mais en regardant de près, il s'aperçoit que ce temple est devenu stérile, qu'il n'y a plus rien à attendre de ce temple. Autant aller acheter un électromètre à l'église de Scientologie ou faire un test de personnalité avec cure de purification à la clé. Ça ne sera pas pire. Ainsi donc, dans cet épisode, Jésus disqualifie le temple et son commerce. Il disqualifie cette religiosité qui empêche d'être vraiment en contact avec Dieu. Et voyez, par exemple, si nous prenons notre comptoir librairie, quel est l'intérêt du comptoir librairie ? Ce n'est pas de faire écran entre nous et Dieu, bien au contraire. C'est de nous donner les éléments qui nous permettront de pouvoir, le moment venu, nous dispenser de tout pasteur, par exemple. Voyez comme quoi c'est par grâce seule que nous insistons pour qu'il y ait un comptoir librairie, nous les pasteurs. Jésus entend entreprendre une réforme profonde du phénomène religieux de son époque. Et c'est cela d'ailleurs qui lui vaudra les foudres des responsables de l'époque, vous l'avez entendu. Les responsables religieux veulent faire périr Jésus, parce qu'il est en quelque sorte en train de leur prendre leur commerce, ce qui est assez insupportable. Que fait-il ? Effectivement, il conseille à ses disciples de prendre leur distance avec ce lieu terrible, et il leur conseille de se recentrer sur l'essentiel, la foi de Dieu. Si vous prenez vos traductions françaises, le plus souvent vous verrez « ayez foi en Dieu ». Mais en fait, c'est un génitif. Pistine tout et où ? La foi, une foi de Dieu. Une foi de Dieu, pas une foi en Dieu. Pas le fait d'adhérer à une liste de choses qui correspondent à l'idée qu'on se fait de Dieu. Une foi de Dieu, un feu sacré, quoi. Quelque chose qui ne correspond pas simplement à notre élan de spiritualité, à notre accès de fièvre du moment. « Ayez une foi de Dieu », dit Jésus à ses disciples. Autrement dit, arrêtez de vous bricoler une foi sur mesure, une foi en sous-régime, une foi qui ne produit des fruits qu'à la saison, une foi qui ne vous fait aller au culte que pour Noël, Pâques et Pentecôte. Je vous dis ça à vous, vous êtes là, c'est un dimanche tout ce qu'il y a de plus ordinaire, donc ce n'est pas pour vous accuser. Mettez fin à tous les intermédiaires. Mettez-vous en lien direct avec l'Éternel. Mettez-vous vraiment à son écoute au lieu de n'écouter que ceux qui parlent à sa place et laissez-vous inspirer par l'Éternel lui-même. Ayez une foi de Dieu plutôt que d'avoir la foi des hommes. Soyez remplis de cette confiance que Dieu fait grandir en chaque être humain plutôt que d'être remplis de systèmes de croyances que les hommes s'élaborent pour se rassurer, pour se donner du cœur à l'ouvrage ou pour rendre la vie moins dure. Et qui ne sont finalement que des rustines au regard de la vie que Dieu révèle. Soyez remplis de cette présence de Dieu lui-même. Ne vous contentez pas des gestes religieux. Soyez profondément religieux. Soyez intégralement religieux. Soyez remplis de cette présence de Dieu lui-même, comme Jésus le dit à ses disciples, plutôt que rempli de ce qui a l'allure de la foi, de ce qui a la couleur de la foi, de ce qui a le son de la foi, mais qui ne serait qu'un produit de contrebande, en fait, avec des lendemains qui seraient assez douloureux. À l'époque de Jésus, le temple est bien plus qu'un bâtiment. Quand on dit le temple, c'est aussi le fonctionnement du temple. C'est l'ensemble des personnes qui gravitent, c'est le commerce, comme nous l'avons dit, mais c'est toute l'économie qui est autour du temple. Il faut imaginer que tout le quartier autour du temple de Jérusalem est entièrement orienté sur l'activité du temple. Eh bien, aujourd'hui, nous dirions l'Église. L'Église non pas au sens du bâtiment, mais au sens de l'institution. Et la prédication de Jésus nous fait entendre que l'Église n'a pas à se contenter d'avoir une forme d'église. L'église qui transpire de la prédication de Jésus est un lieu où il s'agit d'expérimenter l'infini et l'insondable. Non pas entretenir ce que nous avons déjà, non pas conserver en l'état un dépôt que nous aurions reçu de nos anciens, expérimenter l'infini et l'insondable. Pour reprendre l'expression du théologien Nicolas Berdiaeff, l'Église est dynamique. Elle est un processus créateur. Et l'arrêt de ce processus est un péché humain. Autrement dit, vouloir maintenir l'Église en l'état, vouloir maintenir la foi en l'état, voilà le véritable péché humain.
briser l'élan de vie, empêcher la course de l'histoire.
Ce n'est pas l'enveloppe qui compte, car l'Église n'est pas une coquille. Ce n'est pas le feuillage extérieur, ce n'est pas la forme qui compte, c'est la matière, ce qui la compose de l'intérieur.
La véritable richesse de l'Église, c'est vous, c'est pas
ce bâtiment, aussi somptueux soit-il. L'Église, c'est un alliage de matière
singulière.
Et, je ne sais pas si vous me voyez venir, mais l'étape suivante, c'est de dire le caractère indispensable de votre présence au sein de l'Église. Parce qu'évidemment, dès qu'un élément vient à manquer, la nature de l'alliage change. Les propriétés de l'alliage changent. Mais, plus que cela, si nous reprenons l'épisode de Jésus avec le figuier, nous voyons que Jésus suscite auprès du figuier un désir que jusque-là le figuier n'avait pas envisagé. Eh bien, cela est vrai pour chacun de nous. Notre présence suscite du désir au sein de la communauté. Notre présence ne laisse pas la communauté indemne. Notre présence, surtout si elle est un peu active, surtout si nous exprimons un peu de désir, fait que l'Église est bien vivante, qu'elle n'est pas arrêtée dans son processus créateur. Si nous ne sommes pas là pour faire avancer l'Église, l'Église avance moins vite, voire reste en l'état. Eh bien, être présent, tenir sa place au sein de la communauté, c'est participer à cette réforme permanente de l'Église pour qu'elle puisse rester fidèle au Dieu vivant dont le Rabbi Jésus dit que c'est là notre véritable fidélité. Enfin, je dirais que s'il est important aussi de tenir sa place au sein de la communauté, c'est qu'il est encore plus risqué de vivre sa spiritualité de son côté, dans l'isolement. Pas besoin d'être dans un édifice cultuel pour vivre sa spiritualité, pour l'épanouir. Mais il faut des lieux où l'altérité est présente, où il y a autre chose que moi-même. Ce peut être par des lectures, ce peut être par Internet, pourvu qu'il y ait autre chose que moi-même. C'est là encore le sens du dialogue entre Jésus et le figuier. Si le figuier est livré lui-même, alors il vit selon sa propre nature. Ce peut être déjà intéressant, mais ce n'est pas à la hauteur de sa vocation. Pour nous mettre à l'école du désir du Christ, nous avons besoin d'autrui. Nous avons besoin notamment de celui qui est là devant nous à côté, que nous n'avons pas choisi, ce qui concourt à une altérité encore plus radicale, plus intéressante, et c'est cela qui renouvelle véritablement notre vie. Oui, notre horizon spirituel a besoin de cette altérité, et la communauté est l'un des moyens pour bénéficier de cette altérité. Peu importe que ce soit une communauté physique ou virtuelle, l'important, c'est que nous ne nous laissions pas livrer à nous-mêmes. La foi chrétienne, donc, avant d'être ce que nous croyons, ce que nous estimons probable, crédible, est bien plutôt la foi de Dieu. Retenons cela. Et peut-être qu'avec Schleiermacher, nous pourrions dire que la foi, c'est le fait de se laisser saisir totalement par cette foi de Dieu, par ce désir de Dieu. La foi, c'est accepter que ce désir divin a quelque chose à nous dire, et que adhérer à cela rend notre vie autrement plus intéressante. La foi, c'est communiquer avec une multitude de personnes avec lesquelles nous pouvons enrichir notre connaissance de Dieu lui-même, de ce Dieu humanité dont parlait Berdiaev justement, des personnes qui sont là aussi pour nous aider à célébrer de toute notre âme une vie authentique. Je veux dire que les phénomènes de foule ont parfois aussi quelque chose d'intéressant, c'est d'intensifier l'expérience. Les concerts sont plus intéressants quand il y a une foule qui participe d'un même enthousiasme. Eh bien, cela est vrai aussi dans une communauté, qu'elle soit religieuse ou non, le nombre n'est pas indifférent. Le fait d'être porté dans son enthousiasme intensifie l'expérience heureuse qui est vécue. Enfin, une âme renouvelée a besoin d'être à l'école d'autres manières d'être, de pouvoir discerner chez celui qui se tient à mes côtés, devant moi, d'autres possibilités d'existence que je n'avais peut-être pas imaginées moi-même. L'altérité, c'est aussi d'autres convictions, d'autres points de vue, de même qu'il y a 4 évangiles et pas un seul, qu'il y a 3 récits de création et pas un seul. La pluralité est ce qui constitue mon être véritable. Alors, voilà peut-être une bonne nouvelle qui résonne dans ce texte biblique qui n'est pas essentiellement une condamnation d'un figuier, mais plutôt un évangile qui exprime qu'il y a du désir christique qui circule, notamment lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, et que ce désir, c'est que la vie soit surabondante, notre vie soit surabondante, quelle que soit la saison. Amen.